Bonjour et bienvenue, 11h TU, 13h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la banlieue sud de Beyrouth, qui abrite des positions du Hezbollah, reste violemment pilonnée par l'armée israélienne. Le premier ministre libanais appelle à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu. Israël qui se prépare à commémorer l'attaque du Hamas il y a un an. Des dizaines d'otages sont encore aux mains du mouvement islamiste. Dans la bande de Gaza, des frappes israéliennes sur une école et sur une mosquée ont fait au moins 26 morts, à suivre dans un instant. Au sommaire également, la présidentielle en Tunisie promise au sortant Kais Saied. Et en France, la semaine politique sera dominée par la présentation du projet de budget 2025. De nouvelles frappes israéliennes ont donc visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth, quelques heures après des raids nocturnes très violents sur ce bastion du Hezbollah. Le ministère libanais de la Santé fait savoir que les frappes d'hier samedi à travers le pays ont fait un total de 23 morts. Quant au premier ministre libanais, il demande au monde de faire pression sur Israël pour qu'il s'engage à un cessez-le-feu. Cette fois dans la bande de Gaza, au moins 26 morts et près des dizaines de blessés. C'est le dernier bilan de frappes israélienne sur une mosquée, sur une école abritant des personnes déplacées. Carlotta Morteau, bonjour.
Bonjour.
L'armée israélienne affirme qu'elle visait des combattants du Hamas.
Oui, c'est toujours la raison invoquée par Israël quand elle frappe des civils et en l'occurrence des abris de déplacés à Deir el-Balah, cette ville qui concentre l'essentiel de l'aide humanitaire à Gaza. La mosquée et l'école touchées se trouvent juste en face de l'hôpital Al-Aqsa, l'un des derniers établissements de santé à Gaza qui fonctionne encore. Aujourd'hui, l'armée israélienne a appelé à évacuer les habitants de deux camps voisins de Deir el-Balah, Nusayrat et Bouereij, où en juin dernier, Israël avait mené des raids meurtriers pour libérer 8 otages prisonniers du Hamas. Même appel à évacuer ce matin aux habitants de Jabalia dans le nord. Tout cela fait craindre des opérations terrestres élargies, d'autant que cette nuit, des tanks ont pénétré dans le nord de Gaza. Une douzaine de bombes ont été lâchées sur Jabalia et ce matin, l'armée israélienne annonce avoir encerclé la ville et être en train d'y mener des opérations pour débusquer des terroristes du Hamas qui auraient, je cite, reconstruit des capacités opérationnelles. Il y a une heure, les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont confirmé que des combats étaient en cours à Jabalia.
Carlotta Morteau, merci à vous. Demain, lundi 7 octobre, marquera le premier anniversaire de l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Attaque qui entraînait la mort de plus de 1200 personnes, pour la plupart des civils. L'armée israélienne est actuellement en état d'alerte renforcée par crainte d'attentat. Dans un message à l'occasion de cet anniversaire, le président israélien a dénoncé la menace permanente que font peser l'Iran et ses mandataires terroristes. Fin de citation. Les Israéliens, eux, restent massivement mobilisés par la question des otages. En principe, 97 personnes sont toujours retenues en captivité, mais 33 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. À la veille de cet anniversaire, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a publié un message vidéo pour rendre hommage aux victimes et pour appeler à l'arrêt des violences. Écoutez.
Depuis le 7 octobre, une terrible vague de violence et d'effusion de sang a éclaté. La guerre qui a suivi la terrible attaque de l'année dernière continue de briser des vies et d'infliger de profondes souffrances aux Palestiniens de Gaza et, aujourd'hui, au peuple libanais. J'en ai parlé souvent et de manière très claire. L'heure est venue de libérer les otages, de faire taire les armes, de mettre fin aux souffrances qui engloutissent la région. L'heure est à la paix, au droit international et à la justice.
Le chef de l'ONU, Antonio Guterres. On s'arrête maintenant sur une situation humaine absurde comme seules les guerres peuvent en créer. Alors qu'au Liban, de nombreux expatriés et binationaux peuvent partir, nos envoyés spéciaux ont rencontré une famille libano-marocaine empêchée, elle, de quitter ce pays en guerre. Reportage d'Abla Jounaidi et Jad El Khoury.
Dans la banlieue de Saïda, ville de ce sud Liban pilonnée par l'aviation israélienne, un hôtel paisible en bord de mer. Ses clients, des familles de déplacés fuyant les bombardements. Parmi eux, Fatima, originaire d'Oujda au Maroc et qui vit sa première guerre.
Nous vivons à Douer, à Nabatiyé. On a vu la mort. Je me suis dit, c'est fini, je vais mourir. C'est la première fois que je vois ça. C'est dur pour les enfants. Je suis anéantie.
Son époux libanais, Mohamed, ne parvient pas à obtenir de visa pour fuir au Maroc, où pourtant il possède une maison.
L'ambassade exige un visa Schengen pour aller au Maroc. Ils m'ont vu avec les enfants pourtant. Ils savent que c'est difficile, qu'on vit ici, assis dans le jardin. Il faut juste un visa pour moi. Les enfants et ma femme sont marocains.
Une situation surprenante et confuse qui laisse Fatima désemparée.
Je voulais juste rentrer chez moi. Et on ne laisse pas mon mari venir, c'est dur. Mes enfants sont marocains. Mon époux doit pouvoir rentrer au Maroc, non ? Je leur ai dit, ou bien je pars avec lui, ou bien je meurs ici avec lui.
Après une énième relance de l'ambassade du Maroc, la famille a finalement décidé de partir, Fatima et ses enfants au Maroc et Mohamed à Dubaï. Abla Junaïdi, Jad El Khoury, Beyrouth, RFI.
En Tunisie, le chef de l'État sortant Kais Saied part grand favori de la présidentielle organisée ce dimanche. Un peu moins de 10 millions d'électeurs ont commencé à voter. Ils ont jusqu'à 18 heures pour le faire. Seuls deux autres candidats, considérés comme des seconds couteaux, ont été autorisés à affronter le dirigeant de 66 ans, Kais Saied, accusé de dérive autoritaire. L'une des rares inconnues du scrutin est la participation. Elle avait été de seulement 12% aux législatives de l'an dernier. Notre correspondante Amira Souilem a recueilli ses impressions d'électeurs ce matin à Tunis.
Pour la démocratie déjà.
Vous, vous êtes confiant dans la démocratie tunisienne ?
Confiant à 100% l'est, mais il faut déjà voter pour avoir une petite démocratie. Puis après on verra.
Je suis venue voter parce que j'ai des enfants. Ils n'ont pas d'avenir, ils sont perdus, mais j'ai encore de l'espoir. Oui, j'ai encore de l'espoir. J'aime la Tunisie et je veux que mes enfants restent vivre ici. J'en pleure nuit et jour.
La situation est mauvaise de tout point de vue en Tunisie, socialement, culturellement, politiquement, religieusement. On espère que ça ira mieux. Je pense donc que de nombreux jeunes viendront voter aussi.
J'ai voté pour le bien du pays, pour un président en mesure de réveiller la Tunisie, du nord au sud et d'est en ouest.
Non, je vote personne.
Vous
ne
voulez pas voter ?
Non.
C'est un boycott ou un désintérêt ou...
Non, laisse tomber. Après, je veux pas. Je vais voter après, c'est pas beau, il travaille pas bien. C'est mieux comme ça, je suis tranquille. Les personnes cassent la tête.
Impression de Tunisiens votant et donc non votant. Le Kazakhstan se prononce aujourd'hui par référendum sur le nucléaire. Les Kazakhs sont appelés à se rendre aux urnes pour dire oui ou non à la construction de la première centrale nucléaire du pays. Un pays d'Asie centrale qui connaît un paradoxe. Il est déficitaire en électricité alors que c'est le premier producteur mondial d'uranium. La France, via EDF, est en lice pour construire cette centrale, tout comme la Russie, la Chine et la Corée du Sud. Enfin, en France, c'est jeudi prochain que sera présenté en Conseil des ministres le projet de budget 2025. Un budget de crise dont l'objectif est de commencer à combler les déficits publics. Déficits qui, selon Michel Barnier, ont dépassé la cote d'alerte. Interrogé hier en marge du sommet de la francophonie, le président Emmanuel Macron a renvoyé la balle à son Premier ministre et au Parlement, Valérie Gasse.
Une dette colossale, c'est ce que Michel Barnier dit avoir trouvé en arrivant à Matignon, le Premier ministre qui à plusieurs reprises a mis en cause le bilan financier du précédent gouvernement. Alors, c'est avec une pointe d'exaspération dans la voix qu'Emmanuel Macron a répondu à une question sur sa responsabilité dans l'augmentation des déficits.
Là où je suis, je veille à l'indépendance et la stabilité du pays. Je le fais depuis 7 ans à travers les crises et n'oublions pas tout ce que nous avons fait pendant ces crises. Je vois d'aucuns qui disait qu'on faisait trop peu, nous reprocher aujourd'hui peut-être d'avoir fait trop tout court. J'essaie d'être cohérent.
Pas facile de rester dans son rôle de président qui laisse le Premier ministre gouverner quand la politique menée depuis 7 ans est attaquée. Alors Emmanuel Macron renvoie chacun à ses responsabilités dans le moment présent.
Il appartient au Premier ministre de mener les affaires de son gouvernement et de le faire en dialogue avec les groupes parlementaires où il me semble qu'il y a des responsables avec lesquels il doit construire la solution et qui ont une vision assez claire de la gestion et des affaires publiques et du budget de ces derniers mois et de ces dernières années.
Autrement dit, Michel Barnier doit négocier avec Gabriel Attal ou Gérald Darmanin, les anciens ministres aujourd'hui députés du principal groupe du socle parlementaire du Premier ministre qui conteste ses choix budgétaires.
Un tout dernier mot de rugby. Deuxième défaite d'affilée en top 14 pour le champion de France Toulouse, battu hier soir chez son voisin Castres 28-23. Très bonne journée sur RFI, tout de suite l'atelier des médias.